Bonjour à tous. Donc, ce que je souhaite partager avec vous cet après-midi, comme le titre l'indique, une triple plénitude dans notre vie. C'est ce que le Seigneur a inspiré comme prière à l'apôtre Paul dans cet épître aux Éphésiens. J'aimerais dire en préliminaire que pour connaître les préoccupations et les ambitions principales d'un chrétien, il suffit d'étudier le contenu et l'ardeur de ses prières. Et quand on étudie le contenu de cette prière de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il a une connaissance du plan de Dieu pour chaque chrétien. Et c'est ce que les Saintes Écritures veulent nous communiquer à chacun d'entre nous, de comprendre ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre appuie sa prière donc sur sa connaissance du dessein divin, et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais dissocier la prière de la lecture de la Bible, parce que c'est la lecture de la Bible qui va être la source de nos prières. Alors évidemment, on peut prier pour un problème de maladie, demander l'intervention de Dieu dans différents secteurs de nos vies, mais quand on pense à nos frères et sœurs, quand on pense à l'Église, quand on pense au témoignage du peuple de Dieu, quand on pense à la gloire de Dieu, eh bien nos prières devraient s'inspirer de l'Écriture elle-même, parce que l'Écriture nous fait connaître la volonté de Dieu, et par voie de conséquence, en priant, en s'appuyant sur les Saintes Écritures, on a toutes les chances d'être exaucés. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 7, il dit aux disciples, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre, nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Alors, soyez très important d'avoir les Saintes Écritures comme nourriture, comme source pour nos intercessions concernant l'avancement du royaume de Dieu, le développement de la vie spirituelle des frères et des sœurs et le témoignage donc de l'Église. Alors, quel est le contenu de la prière de l'apôtre Paul? Le cœur de sa prière nous rapporte une triple plénitude et qui est en rapport avec les trois personnes de la Trinité. Paul demande au verset 16, section B, c'est-à-dire deuxième partie du verset, que les chrétiens soient fortifiés par l'Esprit de Dieu, donc par le Saint-Esprit. Au verset 17 à 19, section A, que le Christ habite dans vos cœurs. Et section B du verset 19, qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Et là, on a, pour une des rares fois, une inversion chronologique dans la présentation de ce qu'on appelle la personne de Dieu, la Trinité, puisque d'habitude, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul une chronologie différente. Il parle d'abord du Saint-Esprit, ensuite du Christ, dans nos cœurs, et troisièmement, d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. On pourrait légitimement se poser la question pourquoi il y a là cette différence par rapport au corps, on appelle ça le corpus, au corpus habituel des Saintes Écritures. Eh bien, il me semble que c'est parce qu'il parle justement de notre vie de communion avec le Christ, de notre vie de disciple, et que notre vie de disciple, elle se vit par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Et il me semble que c'est pour cela que l'ordre de la présentation de la Trinité, donc de la personne de Dieu, est inversé en parlant d'abord de l'Esprit de Dieu, ensuite de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Dieu le Père. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, versets 16 à 17, première section. Ces deux requêtes n'en font qu'une parce que Toutes les deux ont pour objet la partie la plus intime du chrétien. D'abord, notre homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit, notre âme, notre volonté, et dans l'autre cas, le cœur, que votre cœur, que Christ habite dans vos cœurs. C'est donc la totalité de la personne qui est représentée. Vous connaissez donc cet premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand nous, cartésiens, enfin grecs, européens, quand on parle d'un être humain, on dit c'est un esprit, une âme et un corps. Mais dans la conception juive, il y a aussi le cœur. Nous sommes un cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu a un cœur qui bat pour nous. Quand on pense à Dieu, c'est le souverain maître absolu, c'est évidemment le Dieu saint, parfait. Mais c'est un cœur, c'est un Dieu qui nous aime. Et donc, quand les Saintes Écritures parlent de l'être humain, elles parlent de l'homme intérieur, esprit, âme, et puis également du cœur. Nous sommes la totalité de ces mots, nous représenter la totalité de ces mots. Et c'est pour ça qu'il parle de l'habitation de Christ dans nos cœurs. Alors avoir Christ en soi, dans son cœur, c'est avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'à la conversion, Dieu nous baptise du Saint-Esprit. C'est ce qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous communique l'assurance de notre salut, qui nous communique la vie éternelle, qui nous donne et qui affirme le pardon de nos péchés, qui nous intègre au corps de Christ, nous sommes enfants de Dieu, et toutes ces choses arrivant simultanément. Et c'est donc l'Esprit, par son Esprit, que Christ vit dans nos cœurs. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, il fait cette prière, « Et moi, dit-il à ses disciples, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur. » C'est donc au chapitre 17, la prière sacerdotale, dont le Christ le signale dans le futur sa prière, il dit « Je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, donc l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Comme je vous l'ai déjà expliqué, je crois, dans le passé, à l'époque des disciples, le Saint-Esprit intervenait, était là, le Christ le dit, il demeure, il est avec vous, mais il sera en vous. C'est le moment de la Pentecôte où cette réalité s'est réalisée. À la Pentecôte, les chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit demeure éternellement en eux, ce qui est aussi valable pour chacun d'entre nous. Nous avons eu, à notre conversion, notre Pentecôte. On a reçu le Saint-Esprit, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va demeurer éternellement en nous. C'est pour ça que dans les Épîtres, il n'est jamais question de perdre le Saint-Esprit. On peut l'attrister, on peut l'éteindre. Donc l'attrister, on a compris, c'est de lui faire de la peine. Et à ce moment-là, comme toute personne qui a de la peine, il va avoir un comportement différent, ne sera plus en communion avec le Saint-Esprit, donc avec Dieu. Éteindre le Saint-Esprit, c'est faire en sorte que, se maintenant dans une situation, volontairement, dans une situation de péché, le Saint-Esprit va arrêter de parler, il va arrêter de nous parler, il va arrêter de nous bénir, de déverser dans nos cœurs et dans nos âmes tout ce qu'il est capable de déverser comme bénédiction, ça va s'arrêter. Donc on sera toujours sauvé, chrétien, mais sans puissance, sans capacité de connaître ce qui s'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est aussi pour cela que l'apôtre Paul jamais ne parle de perdre le Saint-Esprit. Mais évidemment, on peut arrêter en quelque sorte son intervention dans nos vies, ou pour le moins la freiner. Et pourquoi ? Parce que la présence de Saint-Esprit en nous, c'est lui c'est elle, cette présence qui est la source de puissance. En Romains chapitre 8, versets 9 à 11, il est dit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et là, dans le contexte, il n'est pas simplement question de la résurrection. Il est question de la possibilité de vivre une vie de résurrection dans nos corps mortels. C'est-à-dire la capacité de pouvoir dire non au péché, dire oui à la vérité, oui à la volonté de Dieu, et de ne plus subir l'esclavage du péché et de la mort. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de savoir que le Saint-Esprit qui habite en nous est là pour nous communiquer la vie de Christ dans nos corps mortels, chaque jour, à chaque seconde de nos vies. Alors évidemment, on peut se poser une question, puisque le Christ habite déjà dans le cœur des croyants par la conversion, par le baptême du Saint-Esprit au jour de leur conversion, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul demande sa présence ? Et on comprend dans le contexte de notre passage que là, il est question de s'approprier toute la présence de Christ dans nos vies. Il n'est plus question de l'aspect d'être baptisé du Saint-Esprit comme témoignage de notre salut et du pardon de nos péchés, mais de connaître la plénitude et la présence du Saint-Esprit pour avoir une vie de victoire en tant que chrétien au quotidien. C'est donc le Saint-Esprit qui, comme la présence de Christ en nous, se fait par degrés. C'est une expérience de fidélité, de dépendance, de vie de disciple. Et c'est à cela donc que nous sommes appelés. Paul souhaite donc que ses lecteurs soient fortifiés, soutenus, armés de puissance par son esprit pour que se fortifie l'homme intérieur. Et que par la foi, le chrétien, les chrétiens que nous sommes, puisse saisir toujours plus cette force divine et vivre la présence divine, la présence de Dieu, en eux au quotidien. Et ce n'est pas le privilège d'une certaine classe de chrétiens, mais c'est ce que le Seigneur réserve à tous ceux qui disciplinent leur esprit et leur intelligence à étudier la parole de Dieu, à la comprendre, pour pouvoir vivre selon ses préceptes. Nous avons besoin de discipline pour étudier la parole de Dieu, que notre intelligence puisse ensuite comprendre, puisque le Saint-Esprit est là pour nous permettre de comprendre ce qui, à première vue, des fois, quand on lit un texte biblique, on se demande qu'est-ce qu'on peut bien en retirer. Mais le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible et qui habite en nous, qui demeure en nous, est capable de nous faire comprendre les choses auxquelles notre intelligence ne penserait même pas. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il dit que nous avons non pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Christ, et que l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Christ, sonde tout jusque dans les profondeurs de Dieu. Et c'est pour ça que quand nous lisons la Bible, eh bien, en demandant au Seigneur, par son esprit, de nous éclairer et de nous faire comprendre les choses, eh bien, parfois, on est comme transporté. Là, on est là, on pense à quelque chose, on se dit, mais j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est tellement beau, tellement profond, et on a une vision, en quelque sorte, au travers des Saintes Écritures, de la personne de Dieu. Et on est touché dans nos cœurs, dans notre être intérieur, et dans nos cœurs, par la personne de notre Sauveur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, il y a deux verbes très différents qui est traduit en français par habiter. Alors, il y a un premier verbe qui est un sens assez faible, puisqu'il signifie habiter comme un étranger qui vit loin de chez lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est en stand-by, qui est en attente, il est loin de chez lui, il passe une nuit quelque part ou deux nuits, mais il va pas demeurer, il va repartir. Par contre, le verbe qui est utilisé dans notre texte, il traduit l'idée de s'installer quelque part, et il s'applique à une demeure permanente, par opposition à une habitation temporaire. Et d'ailleurs, c'est le mot qui est employé pour la plénitude de la divinité qui habite en Christ, en Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et c'est ce même mot qui est utilisé quand Paul prie que Christ habite dans le cœur du croyant, en Éphésiens chapitre 3, verset 17. Et ce mot, il est donc destiné à exprimer la résidence permanente par opposition à l'hébergement, la présence du maître dans sa propre maison, par opposition à l'accueil pour une nuit. C'est la demeure permanente du maître et Seigneur dans le cœur du croyant. Un maître qui règne là où il demeure, qui n'entre pas seulement pour égayer et apaiser, mais avant tout pour régner. Vous savez, l'objectif de Dieu dans la vie des chrétiens que nous sommes, c'est pas simplement de nous apporter cette paix, cette joie qu'il apporte, ce pardon qu'il accorde, mais c'est aussi de régner, c'est-à-dire d'avoir sur nous cette relation d'amour qui va nous amener à obéir. Le Seigneur règne dans nos vies si, en permanence, on est en train de discuter par rapport à ce qu'on lit dans la Bible, par rapport à ce qu'on sait qu'on devrait faire et qu'on ne souhaite pas faire. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un Seigneur, et quand on a un Seigneur, ben on obéit. Et c'est de ce thème-là que l'apôtre Paul est en train de, c'est ce thème-là que l'apôtre Paul est en train de développer dans ce passage d'Éphésiens. C'est d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est de connaître la plénitude du Saint-Esprit. C'est de connaître Christ dans nos cœurs comme étant quelqu'un d'unique. Et comme étant le Seigneur. Alors Christ est peut-être notre sauveur, et je vous le souhaite que ce soit votre sauveur. Mais si Christ est notre sauveur, il veut absolument devenir notre Seigneur. Et c'est d'ailleurs quand le Christ devient notre Seigneur et qu'il s'établit comme Seigneur dans nos vies, qu'on connaît cette plénitude, cette joie d'être chrétien, cette capacité qui ne vient pas de nous, qui vient du Seigneur, de pouvoir partager notre foi tout naturellement, de pouvoir obéir et de même exercer notre foi quand l'obéissance qui nous est demandée risque d'entraîner des conséquences qui, à vue humaine, nous font peur, mais parce qu'on a la foi en Christ, on se dit, bon, peu importe, j'obéis. Et puis, le Seigneur pourvoira et arrangera ma situation. Donc, c'est ça, un Christ qui règne, un Sauveur qui devient Seigneur. Et le Christ, dans le fond, l'apôtre Paul prie que, par son Esprit Saint, les chrétiens laissent Christ prendre réellement possession de leur vie pour la diriger et la fortifier. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne se sent vraiment chez lui, entre guillemets, que dans un cœur nettoyé du péché et rempli du Saint-Esprit. Les chrétiens que nous sommes, nous avons à faire preuve de persévérance dans la foi en Christ, pour que le Seigneur exerce sa seigneurie sur nous. Alors, ça peut paraître peut-être accablant, on pourrait se dire, mais j'y arrive pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que justement, parce qu'on n'y arrive pas qu'on est devenu chrétien. C'est pas parce qu'on a des capacités particulières, c'est tout l'inverse. Enfin, qu'on n'y arrive pas. Et le désir de Dieu, justement, c'est de nous transformer en nous amenant une connaissance de son amour pour chacun d'entre nous. Et plus on va découvrir l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour qui est accompagné de sainteté, de pureté, d'obéissance. Enfin, je ne vais pas vous expliquer toute la Bible, mais c'est pas simplement un amour comme ça, permissif, et puis voilà, tu fais ce que tu veux. Non, c'est le véritable amour, quand la Bible en parle, c'est quelque chose d'extrêmement solide, profond, authentique, pur, clair. C'est un amour d'une honnêteté, d'une transparence invraisemblable. C'est pas simplement un vague sentiment. Et il y a un sentiment, il y a un désir de sainteté, c'est-à-dire que cet amour nous transforme à l'image de Christ. Et c'est pour ça que nous avons besoin de persévérance, mais quelle est notre persévérance? C'est de dire, Seigneur, puisque je n'y arrive pas, s'il te plaît, je veux que tu règnes sur moi et que tu transformes ma vie, transforme-moi. Et il va le faire, et il le fait. Et je ne sais pas quelles sont vos expériences dans votre intimité avec Christ. Mais si vous êtes découragé, ne le soyez pas, parce que nous passons tous par un long travail d'obéissance, d'apprentissage de l'obéissance, d'apprentissage de la disponibilité pour Christ. Et puis ce qui en ressort, c'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'on se découvre qu'on n'est pas capable de grand-chose, mais que lui, avec sa pureté et sa perfection, agit en nous, intervient dans nos vies et nous rend semblables à son image. Il parle d'être dans sa prière que les chrétiens soient enracinés et fondés dans l'amour. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et de la présence de Christ dans nos cœurs et dans notre homme intérieur pour qu'on puisse vraiment s'aimer mutuellement, d'une manière authentique comme l'Écriture nous y invite. Et pour faire comprendre comment il conçoit l'amour de ses lecteurs, l'apôtre associe deux métaphores, l'une qui est tirée ce qu'on appelle la botanique, et l'autre de l'architecture, qui mettent toutes les deux l'accent sur la profondeur par opposition à la superficialité. Les chrétiens d'Éphèse doivent être enracinés, donc là c'est le côté botanique de la chose, les racines d'une plante ou d'un arbre qui plonge profondément dans le sol pour faire face aux tempêtes, et fondés, la fondation, c'est la construction, c'est donc le côté de l'architecture, fondés, et on doit être enraciné et fondé, ou selon la traduction en français courant, enraciné et solidement établi. Et donc Paul nous compare à des arbres plongeant nos racines profondément en Christ, puis également un édifice aux fondations solides et bien ancrées. Et quand on peut distinguer ces choses, quand on discute avec des chrétiens, on voit que s'ils sont vraiment fondés, enracinés et fondés en Christ, ou s'il leur manque quelques connaissances ou quelques, on va dire, degrés d'obéissance pour qu'ils arrivent à cet état d'enracinement et de fondation solide. Dans les deux cas, notre stabilité, elle aura la même cause invisible, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui nous rend stable dans la foi? C'est de savoir que nous sommes aimés par un Dieu parfait, exigeant, tellement sa sainteté est écrasante et inaccessible, mais c'est lui qui nous la communique. Et il nous dit, mais ne t'inquiète pas, je vais, moi, marcher avec toi pour que tu sois transformé. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, mais qui est harmonieux par rapport au contexte de notre texte. Il dit, afin qu'ils connaissent l'amour de Christ. Enfin, les Éphésiens sont nés de nouveau. Ils ont déjà certaines expériences avec le Seigneur. Et pourtant, Paul parle de connaître l'amour du Christ. C'est-à-dire de pénétrer toujours plus avant dans cette connaissance de la personne de notre Sauveur et de la manière dont il nous aime à la perfection. Paul reconnaît, là encore, que nous avons besoin de force pour aimer et de capacité pour comprendre l'amour de Christ. Besoin de force, parce qu'il n'est pas toujours évident d'être chrétien. Nous sommes parfois opposés à une... Nous sommes parfois face à une opposition, à une incompréhension, à un rejet. Et c'est pas toujours évident d'être chrétien, même dans d'autres situations, c'est pas toujours évident de devoir faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a, dans un monde qui n'a rien à faire de Dieu, ça peut remettre en cause toutes sortes de situations, notre propre situation, par rapport à notre témoignage. On peut très bien, certains chrétiens ont perdu leur travail dans certaines situations, voire encore aujourd'hui dans certains pays. Être chrétien, c'est aller manifestement à la mort ou au cachot. Et nous, dans notre monde matérialiste et libre, c'est le laisser aller, nos risques ne sont pas du tout la prison, mais plutôt la mort spirituelle, c'est-à-dire ne plus marcher avec le Seigneur d'une manière digne. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette force du Saint-Esprit et la force de Christ pour comprendre son amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on est soucieux de servir le Christ, alors, et qu'on lit l'Écriture sainte pour le connaître, parce que dans quel endroit va nous révéler la personne de Christ, c'est l'Écriture sainte, animée du Saint-Esprit qui nous habite. Et je me souviens, puisque je voyage beaucoup, je reste plusieurs heures au volant de ma voiture, et quand je vais vers une campagne ou une série d'enseignements, ou quand j'en reviens, je pense au départ, je pense à ce que je vais dire, et au retour, je pense à ce que j'ai dit, et à ce que j'aurais pu mieux dire, voire à ce que j'ai oublié de dire. Et il arrive parfois, pas toujours, mais il arrive parfois que le Saint-Esprit vient en quelque sorte éclairer des passages de l'Écriture et me fait voir la magnifique personne de mon Sauveur. Et là, je suis au volant de ma voiture, mais c'est comme si j'étais plus dans ma voiture. Je veux dire, je suis en train de penser complètement à autre chose qu'au code de la route. Mais étrangement, Je suis parfaitement conscient d'être sur la route. Et j'ai pris conscience de cela, c'est que Dieu peut nous emmener en sa présence. Le Saint-Esprit peut nous amener dans une relation intime, sonder, nous accompagner pour sonder les profondeurs de Dieu. Et en même temps, on est tout à fait conscient de là où on est sur la terre, responsable d'une voiture et justement de ne pas faire n'importe quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que on n'est pas en train de perdre le contrôle de notre personne, puisqu'on est là, bien fait, en train de faire attention à ce qu'on fait, à la conduite. Mais en même temps, on est intellectuellement, dirais-je, spirituellement, je ne sais pas comment le dire, on est emmené quelque part en présence de Dieu. Et quand on est comme baigné de sa présence, et alors on est rempli d'une paix, on est rempli d'une joie, et puis notre intelligence se nourrit de ce que le Saint-Esprit nous a fait comprendre. Et c'est donc une relation d'amour qui se développe et qui apaise nos angoisses, nos inquiétudes, et qui augmente notre foi, notre confiance donc en Dieu, et qui augmente notre obéissance. Et c'est ça qui est remarquable et que j'aime avec le Seigneur. Non, je sais pas ce que j'ai déclenché là. Il dit « rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». On se dit « mais c'est pas possible, on est dans un corps mortel ». Mais il y a vraiment quelque chose à vivre d'une manière très calme, très posée, dans cette connaissance de Dieu, dans cette plénitude de la personne de Dieu. Ceux qui habitent dans le Christ, en Christ habite toute la plénitude de la divinité. Eh bien, en Christ, dans notre conversion, par le Saint-Esprit, Dieu veut nous communiquer cette nature divine. D'ailleurs, il habite en nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, il va faire tout ce qu'il faut, il en a la capacité. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous imaginons ou pensons, se termine notre texte, eh bien, le Saint-Esprit va nous communiquer de plus en plus cette divinité, l'homme spirituel, l'homme en Christ, va prendre de plus en plus de place dans nos vies, par rapport à l'homme naturel. C'est deux natures qui sont là. Et c'est la nature de Christ qui va prendre davantage de force et de présence dans nos corps mortels en attendant la gloire. Alors voilà notre programme. Et quelle est la conclusion de cette prière? C'est que Paul rappelle que Dieu a la capacité d'exaucer ce qu'on lui demande au Seigneur selon sa volonté. Paul souligne d'une façon remarquable de la dernière phrase de ce paragraphe, de la première à la dernière phrase de ce paragraphe, et qui s'élève de niveau en niveau. Il est dit « Dieu peut faire ou agir, car il n'est ni paresseux, ni oisif, ni mort. Il peut faire ce que nous demandons, car il entend et exauce nos prières. Il peut faire ce que nous demandons ou pensons, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Car le Seigneur lit dans nos pensées, et parfois nous pensons à des choses que nous n'osons pas demander, et que, effectivement, nous ne demandons pas. Mais Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, comme je vous le disais, car il sait tout et peut tout. Il peut faire au-delà de tout ce que nous, de tout ce que nous demandons ou pensons, car il a pour nous des ambitions plus élevées que les nôtres. Ambitions spirituelles, hein. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il ne répond pas d'une manière, Dieu n'est pas avare, il répand largement sa grâce. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il est le Dieu de la surabondance. Alors ne mettons pas de limite dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos réflexions, ne mettons pas de limite à l'action de Dieu dans nos vies pour nous rendre semblables à l'image de Christ. C'est sa volonté. Il nous a baptisés du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre ces choses dans un corps mortel. Alors rendons gloire à Dieu, réjouissons-nous, ne regardons pas à nos faiblesses, mais apportons-les au Seigneur. Si nous avons à demander pardon pour quelques fautes accomplies dans le passé ou dans le présent, faisons-le pour pouvoir connaître cette plénitude de Dieu dans notre vie, pour la gloire de son nom. Amen.